RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et ce matin, on se penche sur la façon dont l'urgence écologique change notre rapport au travail. Et on se penche sur les transitions écologiques et solidaires. Dans la seconde partie de l'émission, vous entendrez des personnes qui ont vécu ou sont en train de vivre ce type de transition. Mais pour l'heure, on réfléchit à ce qui, de manière individuelle mais aussi sociétale, se joue dans ces transitions. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Venez nous dire si l'urgence écologique a changé votre travail et si oui, en quoi, si en raison de cette dimension clé du monde d'aujourd'hui, vous avez changé de trajectoire professionnelle ou si vous avez changé votre manière de travailler, même si vous avez gardé le même poste. On vous attend avec vos témoignages et de manière plus générale, faites-nous part de votre réflexion sur le sujet. Que viennent nous dire ces parcours de transition professionnelle et solidaire? Quel est leur impact sur celles et ceux qui les vivent, mais aussi sur la société, sur la transition? Et cette transition, si nécessaire, est-elle l'occasion d'un changement radical dans le monde du travail? 04 72 38 20 23 pour témoigner. Vos mails à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et bonjour Anne-Claire Léo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Et ce matin, je l'ai dit en intro, hein, on va parler des transitions professionnelles écologiques et solidaires.
Oui, la majorité des adultes passent une partie importante de leur temps au travail et donc lorsque l'on ne s'y sent pas bien, les conséquences sont importantes sur l'ensemble de la vie. Or, selon différentes études, la souffrance au travail semble massive aujourd'hui en France, avec une dégradation particulièrement importante à la suite de l'épidémie de Covid. Par exemple, une étude mondiale menée par l'agence de recherche Market Effect et Good Habits indique que 62% des travailleurs français luttent activement contre le stress et le burn-out. Cette souffrance a différentes causes et les manières d'y faire face diffèrent également. Certaines personnes témoignent d'une perte de sens de leur travail et d'une adéquation de plus en plus grande entre leur vie professionnelle et leurs convictions et ce qu'elles estiment aussi être utile pour la société. Et la nécessité d'accorder son travail à l'urgence écologique fait partie des raisons qui poussent à opérer une transition professionnelle. Il peut s'agir de changer complètement de métier et de secteur professionnel, mais parfois ça peut aussi consister à changer sa manière d'exercer son métier tout en restant dans la même entreprise, voire sur le même poste. Mais ces changements nécessitent une réflexion et un accompagnement. Alors, comment cela peut-il se passer? Quelles sont les ressources et les dispositifs disponibles pour celles qui et ceux qui veulent se lancer dans ce type de démarche? Quels sont les parcours possibles, les métiers de la transition écologique et solidaire? Et puis, quel est l'impact de ces transitions qui sont personnelles à la base sur la transition collective? Voilà de quoi largement échanger pendant une heure, Melchior.
Et pour en discuter jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir ce matin deux invités.
Oui, et d'abord Isabelle Huyn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des cofondatrices de l'Institut Transition qui forme, accompagne et outille celles et ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle pour mettre leurs compétences au service de la transition écologique et solidaire. Et je précise que cet institut est basé à Lyon, même si vous nous le direz sans doute, vous recevez aussi des personnes qui viennent d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Avec nous aussi Stéphane Guénézan, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur général de Transition Pro Hauts-de-France. Alors Transition Pro, c'est ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps encore le Fonds GESIF jusqu'en 2020. Il s'agit d'organismes régionaux, paritaires, co-gérés par les syndicats et le patronat et qui ont pour mission d'accompagner les salariés, notamment financièrement, mais pas que, dans leur reconversion professionnelle.
Merci à tous les deux de nous accompagner dans cette émission. On va commencer, Anne, par la chronique Tout est lié. Et ce matin, on accueille Alexandre Poidatz.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Vous nous invitez à nous demander si travailler pour une entreprise polluante augmente l'empreinte carbone des salariés de cette entreprise.
Oui, cela me semble une question légitime. Quand on pense à l'empreinte importante de certaines industries polluantes, qui sont responsables de ces émissions de CO2? Les actionnaires, les consommateurs, le PDG? Rarement on interroge les travailleurs de l'entreprise. Malheureusement, ce calcul semble difficile. Pourtant, les salariés portent bien une responsabilité lorsqu'ils travaillent pour une entreprise dont l'objectif principal est la rentabilité de court terme au détriment des conditions de vie humaines ou naturelles sur Terre. Mais quelle est leur part de responsabilité? Elle n'est pas la même pour tous les travailleurs d'une entreprise. Il est évident qu'un haut cadre issu de grandes écoles en situation financière confortable porte plus de responsabilités qu'une mère de famille en situation de monoparentalité, en précarité, qui serait caissière dans une station essence, par exemple. Pourquoi ? Simplement car, lui, il a le choix. Ils ne font donc pas culpabiliser les personnes qui font face à des barrières pour transitionner d'emploi. Elles sont nombreuses, elles peuvent être matérielles, lorsqu'on est en situation de précarité par exemple. C'est exactement la même chose que les éco-gestes. C'est contre-productif d'imposer le changement si la personne n'en a pas les moyens.
Mais alors en revanche, pour celles et ceux qui ont le choix de changer de travail, qu'est-ce que vous préconisez ?
Changer et témoigner. C'est ce qu'a fait Ian Woodcock il y a 2 semaines. Ce pilote de ligne pour la compagnie suisse depuis 2011 a démissionné. Il a d'une certaine façon réduit son empreinte carbone. Il témoigne ne plus vouloir être partie prenante d'une industrie contribuant de manière significative au problème. Et il rappelle que sa décision ne doit pas être interprétée comme un appel à la responsabilité individuelle, car la lutte contre la catastrophe climatique sera collective ou ne sera pas.
Alors vous nous décryptez le sens de ce dernier message ?
Nous devons collectivement réinterroger à quoi nous souhaitons travailler. Et nos responsables politiques doivent organiser et planifier cela. Car un des chemins nécessaires de la transition, c'est le travail. C'est 70 000 heures dans une vie, c'est notre œuvre, c'est ce qu'on est censé faire pour la société. Or, beaucoup de personnes sont étouffées par une crise spirituelle. Quel sens y a-t-il à travailler pour une entreprise qui détruit nos conditions de vie sur Terre ? D'ailleurs, c'est en partie ce qui explique le phénomène de grande démission après le Covid. Nous devons tendre vers le travail qui rend fier et qui produise des choses dont on a réellement besoin, sans détruire nos capacités d'existence. Et quand je pense à toutes les personnes qui bifurquent, ou mieux, qui dès le début de leur parcours professionnel ont voulu mettre en conformité leurs convictions écologiques et sociales avec leur travail, j'ai beaucoup de gratitude. Les personnes dans l'économie sociale et solidaire façonnent le monde de demain, elles créent des utopies réalistes dès aujourd'hui, elles témoignent du monde d'après. Et je leur dis merci.
Merci beaucoup Alexandre Poilat pour cette chronique. Tout est lié, à réentendre sur rcf.fr. Vous réagissez au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Encore une fois, Anne, ça nous donne de la matière pour démarrer cette émission.
Oui, justement, on peut peut-être se saisir de cette chronique. Isabelle Huyn, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressée ou étonnée peut-être dans ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est de se dire finalement quel choix on doit faire une fois qu'on est dans un job, qu'on en comprend les impacts. Il y a un vrai enjeu à se dire quand, par exemple, on va avoir un poste avec de hautes responsabilités, de se dire que finalement, on est peut-être une des seules personnes qui comprend les impacts de ce secteur d'activité, qui comprend les enjeux et qui, justement, peut répondre à cette question de est-ce qu'il vaut mieux partir ? Est-ce qu'il vaut mieux rester pour essayer de faire bouger les choses ? Qui est une question qui est finalement assez dure de répondre de l'extérieur quand on n'est pas spécialisé sur un sujet, par exemple.
Et quand Alexandre Poidatz dit « il faut partir, changer et témoigner chez les personnes que vous accueillez à l'Institut de Transition », c'est quelque chose que vous constatez, ça ? Ils ont envie de raconter leur parcours et ils pensent que ça peut avoir un impact plus large ?
Alors au début, on va dire, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où au début, il y a toujours un petit côté où les personnes sont presque honteuses de quitter leur travail, parce qu'elles-mêmes ne savent pas où elles vont, en fait, tout simplement. Donc il y a un peu cette peur de l'inconnu qui est difficile à partager. Nous, justement, au début, on dit, ne vous inquiétez pas, au début, vous n'êtes pas obligé de témoigner, de convaincre les personnes autour de vous. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous poser ces questions. Et après, par contre, dans une deuxième phase, il y a vraiment ce temps, une fois que les personnes ont trouvé un peu une place qui leur plaît, où elles savent vers où elles veulent aller, là, par contre, elles sont beaucoup plus enclines à prendre la parole, à convaincre. Et après, le deuxième aspect, c'est que très souvent, ces personnes ont réussi à avancer grâce aux témoignages d'autres personnes. Donc il y a vraiment un effet de retour d'ascenseur, de se dire moi c'est le témoignage, c'est la conférence, c'est l'entretien que j'ai eu avec telle personne qui m'a fait un déclic, qui m'a aidé à y aller tout simplement. Et finalement à mon tour, si moi aussi je peux renvoyer l'ascenseur, c'est super. Et on le voit ne serait-ce qu'entre les différentes promos. On a des personnes, des fois, à la rentrée, par exemple, on fait témoigner des anciens. On a des personnes qui viennent les voir en disant « Mais merci, c'est grâce à vous, j'ai lu un de vos témoignages dans un article de journal, je vous ai rencontré à un événement et c'est grâce à vous que j'ai passé le pas, d'une certaine manière. »
Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a aussi ce que disait Alexandre Poidat, c'est la dimension vraiment collective au sens politique du terme, là, faire évoluer une société de l'intérieur, mais on va peut-être y revenir tout à l'heure. Stéphane Guédézan, vous, sur quoi vous auriez envie de rebondir dans ce qu'a dit Alexandre Poidat dans sa chronique?
Moi, ce qui fait écho dans la chronique qu'on vient d'écouter, c'est la recherche de sens. Hein, depuis la mise en place des transitions pro hein, sur le territoire en janvier de 2020 et suite au Covid, effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que les salariés qui s'adressent à nous, c'est des salariés en recherche de sens, hein, de mise en cohérence entre leurs aspirations, leurs valeurs et le travail auquel ils se destinent. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, hein, en termes d'a priori, la reconversion professionnelle, le changement de métier, il n'est pas motivé d'abord par une évolution salariale hein, et la volonté de mieux gagner sa vie. Il est d'abord et avant tout motivé par une recherche de sens, par un alignement hein, du projet de la personne avec ses valeurs. Et évidemment, hein, les valeurs de conformité au respect en société, au bien vivre en société et à l'humain sont des éléments et des vecteurs extrêmement importants que l'on identifie dans les projets qui s'adressent au réseau des transitions pro aujourd'hui.
Et alors, si on se place sur la longue durée, je ne sais pas si vous avez le recul sur une très longue durée, mais est-ce que ce que vous décrivez là, donc la recherche de sens comme raison majeure de ces transitions professionnelles, est-ce que c'est quelque chose de relativement nouveau? Je ne sais pas, il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, est-ce que vous savez si les raisons des transitions pro étaient les mêmes ou si c'était très différent finalement, puisque la société était très différente?
Oui, je pense que les éléments
Oui, on va retrouver Stéphane Guénézan avec un son un peu plus stable, Anne. On va essayer de se reconnecter.
Ouais. Alors, je reviens vers vous, Isabelle Huyn. Est-ce que pour nous aider à entrer dans le sujet, vous pourriez nous raconter une histoire de transition professionnelle, écologique et solidaire qui, pour vous, illustre particulièrement bien le sujet et ce qui se joue dans ces transitions de manière individuelle et collective?
Oui, ben par exemple, je peux vous parler de Suzanne. Donc Suzanne qui travaillait dans l'informatique, qui a été consultante, qui a fait différents postes plutôt haut placés et qui finalement a toujours été intéressée par le sujet des injustices aussi raciales. Et finalement, après avoir fait l'Institut Transition, elle a trouvé, si on veut, un compromis où à mi-temps, elle va travailler avec une association qui est sur l'aide au logement des jeunes, en réutilisant sa casquette d'ingénieur de données. Donc, elle réutilise des compétences qu'elle avait déjà, mais dans un autre contexte. Et à côté de ça, elle prend aussi le temps de s'investir dans l'association qui s'appelle Génération Lumière, qui est beaucoup sur le sujet des enjeux extractivistes en République dominicaine du Congo. Donc voilà, ça, c'est un exemple d'un parcours. Alors, elle a choisi un peu de faire d'avoir deux structures, une structure pro, une structure associative militante, mais on en a aussi qui, la plupart d'ailleurs, vont d'ailleurs prendre un job à temps plein dans une structure de la transition.
Alors justement, pour décrypter un peu comment ça s'est passé, quand elle est arrivée chez vous, Suzanne, elle avait déjà ces idées-là en tête ou ça s'est complètement construit au fil du parcours?
On va dire que ça s'est, alors je dirais pas totalement, mais elle avait déjà identifié qu'il y avait un sujet des injustices qui était voilà quelque chose qui l'a réveillée. Moi, je me dis souvent en signe pour savoir ça va être quoi les causes qui vous intéressent. Faut regarder vos émotions, les émotions positives, les émotions négatives. Quelles sont les choses qui vous amènent beaucoup de joie, qui vous motivent, qui vous énergisent? Et de l'autre côté, ben quelles sont les choses qui vous révoltent ou qui vous font énormément de peine? Et donc Suzanne, elle avait vraiment identifié que le sujet des injustices, c'est quelque chose qui l'a révoltée. Et petit à petit, en creusant, elle a pu identifier Génération Lumière. Déjà, ça a été une première belle rencontre avec cet asso du territoire. Et elle a pu identifier aussi quel mode d'action lui plaisait. Puis après, c'est cette réflexion de se dire, est-ce que je réfléchis, je fais du bénévolat avec eux? Est-ce que finalement, de quelle manière je peux me stabiliser financièrement? Il y a une vraie réflexion stratégique aussi sur comment on va équilibrer sa vie professionnelle derrière.
Stéphane Guénézan, je crois qu'on vous a retrouvé. Alors, Isabelle Huyn, à l'instant, nous racontait une histoire de transition pro, écologique et solidaire. Vous, laquelle vous nous raconteriez qui illustre particulièrement bien ce qu'on évoque ce matin?
Moi, c'est plutôt le. Enfin, en tout cas, je suis dans une région industrielle, hein, la région Hauts-de-France. C'est une des régions qui, je pense, est celle qui consomme le plus d'énergie à l'échelle nationale. Et l'histoire que j'ai envie de partager avec vous, c'est celle d'un salarié qui a décidé de démissionner pour créer une entreprise de calorifugage industriel. Alors, calorifugage industriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, pour que les industries polluent moins, dégagent moins de chaleur hein, dans l'atmosphère, bah, il faut les isoler. Et le calorifugage industriel, bah, c'est le travail qui consiste à isoler les entreprises au niveau de leurs équipements pour que elles rejettent moins de chaleur dans l'atmosphère. Voilà. Et donc c'est bien aussi dans des éléments très pratiques et des nouveaux métiers. Que cette reconversion et cette transition opèrent. Alors évidemment, hein, sur un marché porteur, parce que les entreprises aujourd'hui, pour respecter les normes dans ces domaines, sont contraintes hein, d'engager des travaux dans ces domaines. Et le calorifugage industriel est une activité prospère. Ce salarié qui a quitté une activité industrielle pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, aujourd'hui a 10 salariés sur la région des Hauts-de-France. Voilà, très concrètement. C'est une aventure bah, qui traduit en tout cas un changement de métier, mais un changement de métier qui vient en application de moyens techniques qui apportent des solutions de transition écologique.
Et voilà qui illustre parfaitement notre sujet ce matin, à savoir la transition professionnelle écologique et solidaire. Si vous en avez vécu une, venez témoigner, venez nous dire un petit peu comment ça s'est passé dans votre vie, quel a été le déclic, comment vous avez été accompagné et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. 04 72 38 20 23 pour témoigner ou par mail à direct@rcf.fr. C'est la même chose si jamais vous doutez actuellement, on a envie de tout savoir.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos deux invités jusqu'à 10h, Stéphane Guénézan, vous êtes le directeur général de Transition Pro Hauts-de-France et Isabelle Huyn, cofondatrice de l'Institut Transition. Anne, on continue.
Oui, alors on l'a déjà pas mal dit hein, depuis le début, il semble que la première motivation de ces personnes qui se lancent dans ces chemins de transition pro écologique et solidaire, eh bien ce soit la recherche de sens. Mais si vous deviez nous faire comme ça une liste à la Prévert des raisons, Isabelle Huyn, qu'est-ce que vous diriez? Recherche de sens et puis quoi d'autre?
Alors il y a la recherche de sens et il y a souvent le phénomène que j'appelle un peu de goutte d'eau, ça veut dire qu'à un moment on va y avoir quelque chose qui fait que vraiment on dit non. Ça va être par exemple un management qui nous convient plus, ça va être un changement structurel de l'entreprise, un rachat par exemple où on ne retrouve plus sa place, ça va être tout simplement une montée en connaissance qui sur les enjeux environnementaux, sociaux qui font bouger, ou il y a par exemple aussi un changement perso. Ça va être par exemple une maladie, il y a beaucoup de personnes qui suite à une maladie remettent en question leur vie professionnelle, ou aussi le fait d'avoir des enfants, tout simplement, où on se dit, ben maintenant, je n'accepte plus ma dissonance et je suis honteux devant mes enfants, donc il faut vraiment que je change quelque chose.
Stéphane Guénézan, est-ce que vous ajouteriez d'autres raisons à ce que vient de lister Isabelle?
Oui, non, je partage les éléments de motivation. Ce qu'Isabelle appelle la goutte d'eau, oui, c'est vraiment l'élément déclencheur, en fait, puisque vous l'évoquiez. Hein, il y a aussi cette espèce de pudeur, hein, peut-être pas de honte, mais en tout cas de pudeur à évoquer son envie de changer. Cette remise en cause, hein, ou avec le questionnement des proches, hein, de l'entourage, qui est de dire, mais pourquoi, en fait, tu veux changer? En fait, tu as déjà un métier, tu gagnes ta vie. Qu'est-ce qui justifie que tu puisses te mettre en risque et donc voilà, cet élément déclencheur fait qu'à un moment donné, ben on prend le risque, on se met voilà, on se met en mouvement et on accepte de répondre aux critiques et effectivement, ben on accepte de pouvoir dialoguer avec ses enfants, avec ses proches, on n'accepte plus de voilà, de subir une situation professionnelle dans laquelle on ne se sent plus à l'aise et à ce moment-là, on est parti, on est en mouvement et on peut bah, taper à la porte de Transition Pro, par exemple, pour demander la prise en charge de son projet.
Alors, qui sont celles et ceux qui tapent à la porte de Transition Pro ou de l'Institut Transition? Alexandre Poitat le disait dans sa chronique, c'est certainement plus facile quand on est cadre que quand on est salarié, avec en plus une situation personnelle qui peut être précaire. Qui sont-ils, qui sont-elles sur le plan social, mais aussi en termes d'âge, de genre, Stéphane Guénézan?
Alors déjà, je pense qu'il faut pas, le sujet de la connaissance évidemment des dispositifs est essentiel pour pouvoir nous identifier et accéder à nos services. Et assez paradoxalement, on est assez nouveau, hein, ça, on a 4 ans d'existence. Et si vous nous indiquiez comme étant l'ancien Fongessif, beaucoup ont eu l'impression qu'on a disparu du paysage. Donc Transition Pro existe bel et bien, les dispositifs d'accompagnement des transitions sont nombreux, mais ils sont encore méconnus. Donc on a un travail à faire auprès de l'ensemble des populations, d'autant que notre population cible, ce sont les premiers niveaux de qualification, sont justement les salariés qui sont les moins qualifiés. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'on a, on a plutôt une certaine appétence, y compris des salariés de premier niveau de qualification, à réfléchir sur leur changement de métier, y compris par ailleurs qu'ils peuvent, aspirer à avoir une meilleure formation, un meilleur statut dans l'emploi, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Les cadres, évidemment, s'adressent à nous aussi à proportion de la population. On a à peu près 7-8% de cadres qui s'adressent au réseau Transition Pro, mais vous voyez que plus de 90% de la population n'est pas nécessairement cadre.
Et est-ce qu'on y va pour les mêmes raisons quand on est tout en bas de l'échelle sociale dans l'entreprise et quand on est cadre ?
Peut-être pas. C'est difficile d'en faire des théories, parce que vous savez, l'ingénieur qui finalement a poursuivi des études et qui veut devenir boulanger, finalement passera un CAP et exercera avec beaucoup d'amour et de passion un métier qui est reconnu par la société à un premier niveau de qualification. À l'inverse, quelqu'un qui est aide-soignant et qui veut devenir infirmière, va gravir les échelons. Comment on va, mesurer ou comparer ces deux projets-là? Je crois que chacun a un parcours individuel, chacun a un parcours de vie.
Et les âges, et puis la répartition homme-femme, vous pouvez nous dire aussi là des choses?
Alors la répartition, alors les femmes sont surreprésentées dans les demandes de transition. Alors probablement aussi parce que les femmes ont un mode d'insertion dans l'emploi qui, on le sait, plus dégradé, hein, en termes de temps partiel subi, en termes de type de job aussi, de type d'emploi, de type de métier sur un spectre beaucoup plus étroit que les garçons en sortie de formation initiale. Donc les femmes représentent un peu plus de 60% entre 58 et 61% selon les années des sollicitations auprès de Transition Pro. Les hommes sont moins représentés. Et après, au niveau des âges, on a, je dirais, 3/3. On a plutôt des 25-35 ans pour un premier tiers, un gros tiers à 35, peut-être un peu plus d'ailleurs, même plutôt 45% entre 35 et 45 ans. Et puis après, très très vite, dès qu'on dépasse ou qu'on voisine les 50 ans, la population qui nous sollicite est beaucoup plus rare.
Isabelle Huyn, ça confirme ce qui se passe chez vous. En tout cas, je crois que les femmes sont encore plus surreprésentées. J'ai vu 70% à l'Institut Transition.
Oui, en effet, nous, on est de l'ordre de 2/3 des apprenants qui sont des femmes. Alors ça parle par rapport à ce que disait Stéphane, le rapport à la formation aussi, je pense. Les femmes sont aussi ici potentiellement plus avides de formation ou ont un sentiment de légitimité qui est un peu détérioré, et se disent alors j'ai besoin de me former pour pouvoir accéder à tel poste. Et de manière générale, après, dans le secteur de la transition, c'est vrai que c'est quand même un secteur où on voit pas mal de femmes, il faut se dire.
Et alors après, sur les âges et la répartition sociale, ça rejoint ce que disait Stéphane Guénézan ou c'est un peu différent? Parce que alors, c'est pas le même accompagnement.
Oui, c'est un petit peu différent. Ça veut dire que moi, je vais vraiment parler en termes des âges que nous voyons à l'Institut Transition, c'est-à-dire des personnes qui se forment, qui souvent sont sur leurs fonds propres aussi pour se payer cette formation et qui est une formation qui est quand même assez autonome. C'est-à-dire que nous les accompagnons, mais c'est des personnes qui sont quand même assez autonome dans le fait d'écrire un mémoire, d'aller voir des initiatives, etc. Ce qui fait que nous, on a une moyenne d'âge plutôt de 40 ans, là où on trouve que c'est assez pertinent, on va dire. Par exemple, on refuse des sorties d'école. On se dit que le programme, nous, est pas forcément adapté à ça. De la même manière, on a des profils, on a pas mal de cadres, par exemple, qui font l'Institut Transition. On a aussi des profils autres. Mais ça ne veut pas dire que les profils qui ne sont pas cadres ne sont pas intéressés par le sujet des transitions, bien sûr. Donc c'est pour ça, il faut toujours se dire, ben, nous, on arrive à voir ceux qui viennent nous contacter à l'Institut Transition, plutôt cadres, une majorité de femmes, autour de la quarantaine. Mais pour autant, on a plein de personnes qui sont sensibles au sujet qu'on évoque, même dans des milieux populaires, par exemple, ou qui réfléchissent à comment changer leur travail, mais qui vont juste trouver une autre solution que celle de l'Institut Transition.
Il est presque 9h30, on va marquer une pause tout de suite dans Je pense donc j'agis, ça va vous laisser le temps de nous appeler pour témoigner si vous avez vécu une transition professionnelle écologique et solidaire, ou solidaire d'ailleurs, venez témoigner hein, au 04 72 38 20 23, si d'après vous c'est nécessaire d'ailleurs, si c'est l'occasion d'un changement radical dans le monde du travail, et si jamais bah, vous travaillez actuellement mais vous doutez, vous avez perdu du sens, peut-être que ça pourrait répondre à vos questions ce matin, 04 72 38 20 23 ou alors dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on parle transition professionnelle, écologique et solidaire ce matin dans Je pense donc j'agis avec Anne Kerléo et nos deux invités, Stéphane Guénézan, directeur général de Transition Pro Hauts-de-France, et Isabelle Huyn, cofondatrice de l'Institut Transition.
Alors bah, jusqu'à présent, on a regardé pourquoi ces désirs de changement dans la vie professionnelle émergeaient. Maintenant, on va essayer de se demander, bah, à partir du moment où le désir est là, où il s'installe et où vraiment il faut faire quelque chose, bah, comment on fait ? J'ai envie de vous demander à tous les deux. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes situés de manière très différente l'un et l'autre. Une fois qu'on est sûr qu'il faut y aller, qu'il faut faire quelque chose, Stéphane Guénézan, quel est le premier pas ? Par quel bout on peut prendre les choses ?
Alors, le premier bout, ça peut être déjà de questionner son entourage, d'aller rencontrer son conseiller en évolution professionnelle et puis venir rencontrer Transition Pro pour essayer d'identifier les dispositifs, les moyens hein, d'accompagnement.
Je vous arrête tout de suite quand vous parlez de conseiller en évolution professionnelle. Moi, je ne sais pas qui c'est mon conseiller en évolution professionnelle, je le trouve où ?
Alors, effectivement, ça fait partie aussi des changements de la loi de 2018. Vous voyez, ça commence à être un peu ancien, mais c'est encore très méconnu. Le oui. Conseil en évolution professionnelle, c'est un service public gratuit qui permet aux salariés, normalement, d'avoir un éclairage sous forme d'entretien sur son projet professionnel. Et donc, ce service se trouve sur... est accessible depuis moncep.fr sur Internet et en proximité pour l'ensemble des salariés de notre pays. À titre d'exemple, pour les demandeurs d'emploi, le conseiller en évolution professionnelle, c'est France Travail. Pour les actifs occupés, pour les actifs en emploi, les salariés en emploi, le conseiller en évolution professionnelle s'appelle Avenir Actif. Voilà, ce service peut être le service possible. Maintenant, Transition Pro peut être aussi l'interlocuteur si le projet est identifié.
C'est ça. Et alors, on s'aperçoit que souvent, du désir, de l'idée à la réalisation, il y a du temps parce que c'est aussi quelque chose qui fait peur. Ça peut être un saut dans l'inconnu. Quand les personnes frappent à votre porte, est-ce que la peur est présente justement ?
Oui, la peur est toujours présente parce que déjà, pour commencer, on ne prendra pas en charge tout le monde et il nous faut être transparent hein, dans les modes de traitement des dossiers. On a des priorités par rapport aux crédits. Je rappelle que les crédits qu'on mobilise hein, sont des crédits qui viennent des entreprises hein, au titre de leur masse salariale et qui nous sont versés par France Compétences. Et donc, l'octroi l'octroi des crédits et le financement de chaque projet individuel répond à un certain nombre de critères et de priorités. On vise en particulier plutôt les premiers niveaux de qualification, les ouvriers, les employés, et on a un certain nombre de critères de prise en charge. Donc, expliquer aux candidats qui s'adressent à nous les différents critères, les différents dispositifs, c'est tout ça qui nous permet aussi de dépasser la peur et de sécuriser le parcours et la réflexion du candidat qui s'adresse à nous.
Donc, dans ce que dit Stéphane Guénézan, j'entends, on peut, si on ne sait pas encore vers quoi on veut aller, on va voir son conseiller en évolution professionnelle. Et puis, si on sait un peu, ou voire beaucoup, on peut prendre contact avec Transition Pro dans sa région. Isabelle Huyn, vous êtes où dans ce dispositif? Vous vous situez comment? C'est une autre proposition? Ça s'articule avec ce que vient de dire Stéphane Guénézan?
Oui, nous, on arrive après. Ça veut dire qu'une fois qu'on... on a souvent un échange avec son conseiller professionnel ou par exemple qu'on fait un bilan de compétences. C'est souvent là où les personnes se disent « Ah mais en fait, je sens que j'ai besoin de plus d'accompagnement. J'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de plus de connaissances, j'ai besoin de plus de légitimité. » Et c'est ça que nous, on essaye d'amener aux personnes. Donc ça veut dire que c'est vraiment, pour moi, des acteurs comme Transition Pro, c'est un peu des carrefours, c'est des aiguilleurs, c'est pour aider aussi à avancer. Là où nous, une fois qu'ils ont décidé un peu de vers où ils veulent aller, on va vraiment être à leur côté, on va leur tenir la main un peu sur ce chemin, quoi, d'une certaine manière.
Vous êtes née c'était juste avant le Covid, et puis votre formation Nouvelle Voie s'est lancée juste après le Covid, c'est ça?
Oui, c'était pendant le Covid. Alors, c'était pas un choix, on va dire, puisque c'est vrai que les 50 courageux qui ont fait la première promo avec nous, on a fait beaucoup de visio, c'est sûr. Alors après, c'était pas un choix et d'une certaine manière, je pense que ça nous a aussi aidé à démarrer dans le sens où beaucoup de personnes sont venues parce que justement le Covid était un signe pour eux que vraiment ça allait pas, ça leur a laissé ce temps justement de se poser des questions, de se dire ah mais en fait je me rends compte que là je pourrais totalement arrêter mes activités et que la vie continue en fait, que le monde continue, la vie continue. Ça leur a permis de passer aussi beaucoup de temps peut-être avec leurs proches, avec leur famille, et justement de beaucoup de discussions qui étaient peut-être évitées, ben finalement ils les ont eues, et donc ça les a amenés à réfléchir sur leur vie pro. Donc voilà, c'était un heureux hasard d'une certaine manière, mais je pense que ça nous a aidé à aussi toucher des personnes qui ne seraient peut-être pas venues chez nous sinon.
Stéphane Guénézan, l'Institut Transition fait partie des nouveaux acteurs qui accompagnent ces démarches. Vous, sur votre territoire des Hauts-de-France, il en existe aussi ce type d'acteurs? Il y a beaucoup d'acteurs nouveaux dans le domaine de l'accompagnement de ces transitions?
Oui, alors il y a beaucoup d'acteurs dans le champ de l'accompagnement et du bilan de compétences qui sont là aussi pour aider et accompagner les projets divers. Ça peut être aussi des projets à la création d'entreprises et on travaille avec eux. On a des liens quand les éléments ne suffisent pas. Nous intervenons principalement sur la prise en charge financière, le financement du projet de formation, quand une formation est nécessaire pour envisager le changement de métier, et nous prenons en charge le maintien de salaire, ce qui permet évidemment de sécuriser très, très fortement le projet de changement de métier. Avec Transition Pro, on dit aux gens, avec nous c'est possible.
Parce que si on explique jusqu'au bout, en fait, une personne qui se lance avec vous, elle reste membre de l'effectif de son entreprise où elle était jusqu'à présent, elle continue de percevoir son salaire et ce n'est qu'à l'issue qu'elle décidera finalement si elle part vraiment ou si elle reste dans l'entreprise, c'est ça?
Oui, c'est bien ça. Le projet de transition professionnelle, le PTP, c'est bien un moyen pour le salarié de changer de métier en étant en suspension de son contrat de travail, dans le cadre d'une autorisation d'absence prévue par la loi. Nous remboursons le salaire chargé auprès de l'employeur, et du coup, l'employeur continue à verser le salaire à son salarié absent pendant tout le temps de la formation, et nous payons la formation auprès du centre de formation. À l'issue de la formation et la qualification en poche, le salarié décide du moment où il va démissionner pour pouvoir réaliser sa transition professionnelle et son changement de métier. C'est de ce fait-là un dispositif très, très sécurisé. Ce qui n'est pas le cas du dispositif que j'évoquais tout à l'heure là, pour notre calorifugeur industriel où lui, c'était une démission.
D'accord, donc lui, il a sauté dans le vide tout de suite.
Et il a bénéficié d'un autre dispositif.
Qui est, peut-être, si vous pouvez
aussi est le dispositif d'émission reconversion et qui permet rapidement à un salarié qui a des droits à de l'assurance chômage de pouvoir en bénéficier dans le cadre d'une démission modulo, d'avoir un projet professionnel validé par Transition Pro préalablement à la demande d'indemnité Pôle emploi. Enfin, France Travail, maintenant.
Vous parlez de démission. Est-ce que ça marche aussi, par exemple, dans le cadre d'une rupture conventionnelle ?
Non, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, on n'est pas dans ce cadre-là.
Isabelle Huyne, oui.
Oui, pour compléter aussi, souvent nous, dans les rendez-vous d'inscription, on aide un peu à démêler tout ça. Le cas assez classique, par exemple, qu'on a, nous, c'est la rupture conventionnelle. Ça marche bien, ça permet aux personnes de conserver leur droit au chômage. Et très peu sont au courant de ce dispositif démissionnaire. Ou par exemple, ils en sont au courant trop tard. Ça veut dire que la personne a... déjà fait une démission, etc. Ils découvrent le dispositif démissionnaire, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, vraiment, nous, on essaye pas mal d'informer les personnes, de dire, vous avez cette option qui existe, par contre, prenez le temps de vous informer, il y a des critères qui sont très transparents, très, très simples à comprendre. Et par contre, ça demande un peu de temps pour faire son dossier, pour faire les démarches. Donc c'est bien de préparer, on va dire, sa reconversion sans sauter... un mois avant de s'inscrire à l'Institut Transition, de réfléchir à comment on part, comment on finance, etc.
Alors, mais quand même, dites-nous, comment on peut financer l'Institut Transition si on décide de faire la formation Nouvelle Voie, qui donc est une formation sur une année, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ça veut dire que nous, on accueille les personnes en septembre et ils doivent nous rendre leur mémoire fin d'année d'après, donc fin août, pour du coup nous le présenter en septembre. Donc c'est une année qui passe avec nous. Et donc pour se financer, plusieurs choses. Donc comme je disais, vraiment la voie la plus classique, c'est une rupture conventionnelle, donc qui demande de négocier ça avec son entreprise, d'être potentiellement quand même en assez bon terme pour que ça se passe. On a quelques personnes qui restent dans leur entreprise et qui font la formation, et dans ce cas-là, elles peuvent mobiliser l'OPCO de leur entreprise. Donc ça demande...
Alors, l'OPCO, pour les non-initiés.
Alors, en fait, quand nous sommes salariés, nous contribuons à des organismes de formation que nous payons. Et par contre, c'est un financement qui doit être accepté, déclenché par l'entreprise, d'une certaine manière. Par rapport, contrairement, par exemple, au CPF, qui est quelque chose d'individuel, qu'on peut choisir de déclencher soi-même. Et donc ces personnes, des fois, on a une salariée d'Air France qui a sa formation, qui est payée par Air France cette année, par exemple. Ou des fois, ça va être des personnes qui sont tellement en bon terme avec leur entreprise, où il y a vraiment l'entreprise qui va dire, allez, je soutiens ton projet, même en sachant que potentiellement la personne part de son entreprise, c'est déjà arrivé. Je soutiens ton projet, je te paye ta formation. Sur les profils un peu plus seniors, c'est un peu plus une histoire de ça fait quand même 30 ans que je bosse chez vous, vous me devez bien ça, je pars dans la négociation, on va dire, plutôt que de négocier une prime, les personnes vont négocier par exemple de se faire financer cette formation. Donc ça, c'est les possibilités. Et après, on a quelques cas où des fois ça va être France Travail, donc sur des profils qui sont pas cadres, par exemple. On va avoir des cas où des fois c'est France Travail qui peut financer. Ça peut être aussi le cas dans le cas d'un licenciement économique. Donc là où des fois le cadre va être un petit peu allégé. Et nous, après, on a essayé de mettre en place un fonds de solidarité territoriale. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on essaye de faire en sorte que si la personne a un profil qui est intéressant pour faire cette formation, mais avec trop de contraintes financières, on va essayer de faire en sorte de réduire les frais pour certaines personnes. Alors, on essaye de faire au cas par cas, ce qui est toujours un exercice très difficile. Mais voilà, d'essayer de se dire, en fait, ça nous fait trop de peine de dire non à des profils où on sait que ça serait pertinent et que c'est juste la question financière qui bloque.
Mais par exemple, Nouvelle Voie, votre formation n'est pas finançable dans le cadre de Transition Pro.
Alors, nous, ce qu'on a, c'est des personnes qui vont faire le dispositif démissionnaire, par exemple. Chaque année, on en a quelques-uns. Donc, ils font tout un dossier pour faire le dispositif démissionnaire. Ils ont le maintien de leur droit au chômage. Par contre, c'est eux qui vont payer la formation sur leur fonds propre.
Alors, peut-être pour rentrer concrètement dans, une fois qu'on a fait ça, on a fait l'Institut Transition ou on a trouvé la formation qu'on voulait faire, enfin, ou même en amont, quels sont les métiers finalement vers lesquels on va pouvoir aller? Alors, il y a les métiers qu'on connaît bien, mais peut-être je voudrais que vous évoquiez l'un et l'autre des métiers relativement nouveaux qui s'inscrivent clairement dans le cadre de la transition écologique et solidaire et qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Stéphane Guénézan, quel métier nouveau existe?
Alors dans notre région, région des Hauts-de-France, vous savez, on a des gigafactories qui s'installent dans notre région pour fabriquer des batteries embarquées pour nos véhicules d'aujourd'hui et de demain. Et on accompagne aujourd'hui des salariés en reconversion qui quittent la fabrication de moteurs thermiques pour aller fabriquer des batteries pour devenir opérateurs de fabrication industrielle en batterie électrique. Et on accompagne d'ailleurs Transition Pro, mais aussi l'entreprise elle-même, hein, Stellantis, accompagne ses salariés, puisque c'est le cas de figure qu'on accompagne en région Hauts-de-France. On accompagne les salariés de l'entreprise de Douvrin, qui fabriquait donc des moteurs électriques et qui sont embauchés par Automotive Sales Company, ACC, hein, qui est la nouvelle Gigafactory. C'est des métiers clairement qui n'existaient pas il y a encore un an et demi dans la région.
Isabelle Huyn, une petite liste de métiers nouveaux?
Alors, il y a des nouveaux métiers, bien sûr, qui vont être liés à des nouvelles pratiques. Par exemple, on a des personnes qui travaillent dans les sujets de consigne, sur des sujets de compost, par exemple, sur le déploiement du vélo. Et après, on a aussi tous les métiers qui sont des métiers qui existaient, mais qui doivent être faits autrement. Maintenant. C'est-à-dire qu'on a par exemple, déjà tout simplement, ça me fait penser à ceux qui sont instituteurs, professeurs qu'on a, et qui finalement, après notre formation, restent professeurs, mais le font différemment, sont un peu éco-professeurs, ils aiment bien s'appeler, où ils vont faire des choses qui dépassent un petit peu le cadre de leur fiche de poste, d'une certaine manière, ou tout comme des métiers qui sont autour du soin. Il y en a deux qui ont lancé un centre de santé planétaire, c'est-à-dire que au lieu de juste réfléchir par des médicaments pour tout, de réfléchir avec le concept qu'on appelle le concept One Health, où de manière globale, en fait, on fait converger à la fois les sujets écologiques et à la fois les sujets de santé, par exemple. Donc c'est une approche beaucoup plus holistique de la santé. Donc voilà, à la fois des nouveaux métiers et à la fois des métiers qu'on connaissait déjà, mais qui amènent, qui évoluent, qui changent et qui demandent de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances.
Alors, on entend bien qu'il y a différentes options. Il y a changer de métier. Il y a Stéphane Guénézan, vous évoquiez aussi tout à l'heure d'un mot l'option de l'entrepreneuriat. Justement, là-dessus, comment ça émerge, ça, et comment on peut se lancer quand on était salarié, qu'on a toujours été salarié, et puis que tout d'un coup, cette option-là apparaît?
C'est justement tout l'intérêt du dispositif démissionnaire, démission reconversion qu'on évoquait à un instant. Quand on parlait de bénéficier de ces allocations de chômage, en fait, on peut, dans le cadre du dispositif démission reconversion et dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'entreprise, on peut bénéficier on peut toucher ces indemnités de chômage en une ou plusieurs fois pour pouvoir accompagner le financement d'un projet. Donc clairement, ça veut dire aussi qu'on a un apport financier vis-à-vis d'une banque dans le cadre d'un projet un peu conséquent qui peut être tout à fait mésestimé, mais qui peut être tout à fait déterminant pour pouvoir sauter le pas justement de cette envie de passer du projet à la réalisation concrète. Le dispositif d'émission reconversion, comme l'évoquait Isabelle, il est encore très méconnu, comme souvent d'ailleurs les dispositifs de reconversion. Enfin, vous voyez, conseil en évolution professionnelle, OPCO, Transition Pro, c'est un vocabulaire encore nouveau et encore peu intégré, y compris par les DRH eux-mêmes.
Alors justement, ce matin, pour celles et ceux qui nous écoutent avec une idée derrière la tête, peut-être qui en est qu'au début, et qui se disent j'entends tout ça, ça fait beaucoup de choses, je vois qu'il y a plein de possibilités, donc ça c'est le point positif, et en même temps, je sais toujours pas par quel bout prendre les choses, parce que ça fait beaucoup de cycles, ça fait beaucoup de dispositifs. Là encore, je reviens à ma question du début, par quel bout on commence? Alors Stéphane Guénézan, vous disiez, le conseiller, j'ai déjà oublié son nom, le conseiller emploi formation. Mais peut-être avant, quelques clés pour commencer peut-être la recherche, ne serait-ce que personnellement sur Internet. Là aussi, est-ce que vous avez un peu des pistes à donner?
Bah écoutez, venir de toute façon sur le site Transition Pro dans sa région, venir rencontrer nos conseillers. Hein. Alors évidemment, depuis le Covid, on a aussi beaucoup fait évoluer notre offre de services, puisqu'en fait, on a aussi de l'accueil dématérialisé en visio pour les candidats. Mais nous sommes présents sur le territoire à travers de nombreuses agences physiques, et donc on accueille aussi physiquement hein, les candidats pour pouvoir avoir ce premier niveau d'information et essayer de se repérer. Hein. Effectivement, on est bien conscient dans cette jungle de sigles, et de dispositifs. Voilà, venir rencontrer, venir rechercher sur nos sites internet transitionpro.fr l'information autour du changement de métier pour pouvoir avoir ces premières informations du paysage en fait dans lequel on peut inscrire son projet. Identifier les acteurs et notre rôle de service public, hein, il est réellement aussi de passer le relais et de réorienter tous les candidats qui ne relèveraient pas de Transition Pro.
Et vous l'avez dit, hein, Transition Pro est un dispositif régionalisé. Isabelle Huyn, l'Institut Transition est basé à Lyon, même si vous accueillez des apprenants, comme vous les appelez, qui viennent aussi d'autres régions. Il y a quand même une dimension forte d'ancrage territorial, non, dans ces démarches?
Oui, tout à fait. Ben, nous, par exemple, c'est pour ça qu'on dit aux personnes, si vous êtes prêts à passer du temps sur Lyon, venir faire les cours à Lyon, c'est aussi qu'au-delà de ça, on se rend compte que les questions de transition écologique et sociale sont quand même aussi assez locales. Ça veut dire que répondre à la question des déchets sur Lyon, c'est pas la même chose que répondre à la question des déchets en Bretagne, par exemple. Bien sûr, il y a des similarités. Mais chaque territoire est assez différent. Et donc, nous, à chaque fois, on essaye d'être assez humble en disant, nous, sur le territoire lyonnais, on commence à bien avoir les billes, on a un réseau, on voit comment ça fonctionne, mais on ne serait pas du tout pertinent si demain on nous demandait de créer l'Institut Transition dans un autre territoire, par exemple. Par contre, un point qu'on avait sous-estimé, c'est en fait des personnes qui, des fois, ne viennent pas du territoire lyonnais et qui viennent, par exemple, passer un an à apprendre comment ça fonctionne à Lyon et derrière vont transposer ce qu'ils ont appris dans un autre territoire. Par exemple, on a souvent des Savoyards, par exemple, qui viennent et qui se disent, comment est-ce que je vais amener ça dans mes montagnes?
Mais en tout cas, dès le début de la démarche, il faut regarder sur quel territoire ça va se jouer, si on reste sur le même, si on change, et puis même si on se forme ailleurs, avoir quand même ce deuxième pilier qui est l'ancrage territorial, quoi.
On va dire qu'en tout cas, en termes de pertinence de ces actions, en termes de pour essayer d'avoir de l'impact, c'est intéressant de réfléchir d'un point de vue territorial. Après, ce que nous, on essaye aussi de construire, c'est de se dire qu'une fois qu'on a fait une formation comme l'Institut Transition, le but, c'est que si demain, on veut creuser une nouvelle cause, on veut avoir un impact sur un autre territoire, en fait, on est déjà assez armé sur ça. Ça veut dire que si on va dans un nouveau territoire, on ira rencontrer les acteurs locaux, on ira se renseigner sur les sujets, on ira faire en sorte de faire des actions collectives avec les personnes sur place. Et donc voilà, c'est un petit peu aussi une façon d'être, d'une certaine manière, qu'on essaye d'amener aux personnes pour que le but, c'est pas qu'à chaque fois qu'une personne veuille ouvrir un nouveau sujet ou aller sur un nouveau territoire, elle refasse l'Institut Transition. Le but, c'est qu'une fois qu'on a fait l'Institut Transition, on a acquéré un petit peu un profil couteau suisse, tout terrain, quoi.
Oui. Parce que justement, ça implique peut-être, mais vraiment de quelques mots, vous nous donniez un aperçu du contenu de la formation, en fait. À quoi vous les formez, vos apprenants?
Alors, nous, déjà, il y a une grosse brique, c'est un travail d'accompagnement, c'est-à-dire, on les aide à identifier vraiment quelle est la cause qui leur parle. Et alors, ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment pas facile de le faire quand on s'est jamais posé cette question. Donc voilà, identifier, c'est quoi la cause, le sujet qui me parle. Et après, identifier autour de cette cause et ce sujet, quelles seraient les actions que la personne trouve pertinentes et qui est pertinente au sens de la transition. Donc ça, c'est vraiment le gros cœur, c'est l'accompagnement. Puis à côté de ça, on va avoir des cours. L'idée, c'est d'avoir une vision un peu 360 des sujets de transition, qui sont quand même assez systémiques et assez nombreux. On dit souvent, les personnes ne savaient pas, avant de s'inscrire, ne savaient pas ce qu'elles ne savaient pas, d'une certaine manière. Donc on découvre de nouveaux sujets, on découvre de nouvelles problématiques. Et enfin, nous, une approche qu'on aime beaucoup aussi, c'est par l'action, c'est-à-dire que les personnes font des missions. avec des organisations du territoire où elles vont rester pendant 2 mois, 3 mois, par exemple, avec eux. Ça va être un jour par semaine, par exemple, pour les aider sur un sujet. Et donc ça, ça permet vraiment de gagner en compétences, légitimité et en réseau.
Stéphane Guénézan, un aspect qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, les métiers que vont choisir un certain nombre de personnes en transition professionnelle vont être dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire aussi que les salaires potentiellement vont être moins importants que ce qu'ils étaient auparavant. Comment se poser la question du salaire quand on se lance dans une démarche comme celle-là?
Eh bien, en fait, c'est toute la question de la validation du projet, hein. C'est-à-dire qu'on demande aux candidats qui s'adressent à nous d'avoir bien apprécié l'ensemble des dimensions de leur projet, y compris sur le plan des revenus potentiels futurs, sachant qu'un changement de métier, on redémarre nécessairement au premier niveau, hein, d'un métier nouveau qu'on pratique, donc évidemment avec le salaire afférent. Donc, c'est une dimension qu'on demande de prendre en compte, à travers des enquêtes métiers, à travers une recherche active et surtout l'ensemble des dossiers qu'on finance sont ceux avec des perspectives d'emploi avérées. Donc on demande aux candidats aussi de nous donner des offres d'emploi qui sont susceptibles de les satisfaire dans le cadre de leur reconversion. Et donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on valide des dossiers. Et pour rebondir avec ce qui a été évoqué à l'instant sur la notion de territoire, hein, je pense qu'effectivement la reconversion et les transitions écologiques, on le voit bien, sont pas les mêmes selon les territoires. Quand on est une région viticole, quand on est une région industrielle, quand on est une région touristique, il y a des enjeux de transition écologique qui sont évidemment fort différentes. Il y a des projets individuels, mais il y a aussi le projet de la société et des besoins et des perspectives d'emploi.
Sur la dimension financière, Isabelle Huyn, ça implique de se demander finalement, enfin de se poser des questions assez fondamentales qui vont peut-être bien avec toute la réflexion sociétale sur la transition écologique et notamment de combien j'ai besoin pour vivre en fait, qui est peut-être pas une question qu'on se pose tant que ça.
Oui, moi j'aime bien sortir des fois un petit peu du vraiment de la question de l'argent pour dire vraiment, en fait c'est quoi dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. La question, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'apporte de la sécurité? Donc, bien sûr, les finances font partie de l'équation. Mais déjà, quand on décale un petit peu comme ça, ça permet de prendre un petit peu de recul. Et c'est toujours un curseur, si on veut, entre sécurité et liberté. C'est-à-dire que on sait que pour les personnes, pour qu'elles puissent transitionner ou faire des actions, elles ont besoin de sécurité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette sécurité? Est-ce que c'est, pour certaines personnes, ça va être, par exemple, leur sécurité relationnelle? Le fait de se dire, je vais encore pouvoir être dans mon cercle social, j'ai des personnes qui m'entourent, j'ai des personnes qui peuvent me soutenir, etc. Ça va être la question du chiffre financier, ça va être la question de combien on a de côté, tout ça. Et de l'autre côté, la liberté, c'est de se dire aussi, quel salaire est OK pour m'offrir quand même un choix professionnel qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, des fois, les personnes qui se mettent un curseur trop de salaire, un objectif trop de salaire, sont limitées dans le choix des jobs qui voudraient. Des fois, ils se disent, cet asso, elle est super, je pourrais vraiment y apporter quelque chose, mais c'est trop bas par rapport à mon objectif. Et donc là, finalement, il faut se rendre compte qu'on perd de la liberté. On perd la liberté d'aller sur une action, un choix qui nous plaît. Et moi, je parle souvent de cette histoire de la cage dorée, de dire c'est beaucoup des personnes qui ont quitté leur job, qui étaient très bien payées, très confortables, mais je leur disais, en fait, vous étiez dans une situation de cage dorée, puisque finalement, vous étiez malheureux dans cette cage dorée où tout allait bien d'un point de vue financier. Donc, essayez de ne pas retomber dans ça et d'avoir quand même cette balance entre, oui, je me sens en sécurité pour moi, ma famille, mais j'ai quand même la liberté d'aller sur les actions qui me parlent.
Alors on arrive malheureusement déjà au terme de cette première heure d'émission. Pour terminer, je voudrais vous demander en 30 secondes chacun de répondre à une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui est celle finalement de l'impact sociétal, politique de ces transitions pro-écologiques et sociales. Isabelle Huyn, vraiment en 30 secondes.
Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois, ça part souvent d'une envie individuelle et petit à petit, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire aussi, nous, en termes de société. À quel métier on dit non? Et on dit non déjà par son départ, mais aussi potentiellement, on va essayer de faire des actions pour fermer certains secteurs d'activité potentiellement.
Stéphane Guénézan, pareil, en 30 secondes sur l'impact sociétal.
Peut-être en miroir avec ce que dit Isabelle, je prendrais le côté collectif. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les transitions écologiques sont de plus en plus demandées, souhaitées, qu'elles correspondent à de vraies opportunités d'emploi et qu'il faut les faire rencontrer avec des aspirations individuelles. Mais des perspectives d'emploi dans les transitions écologiques sont désormais nombreuses et constituent de vraies opportunités de changement de métier.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez aller voir sur Internet Institut Transition et Transition Pro dans votre région. Puis Melchior, ça continue.
Exactement, on va continuer dans un instant dans Je pense donc j'agis en évoquant toujours les transitions professionnelles, écologiques et solidaires. On va prendre l'exemple de deux personnes qui ont vécu une transition avec toujours vos exemples, vos témoignages au 04 72 38 20 23. À tout de suite.